De même que c'est à travers l'alliance que les mœurs du Dieu vivant se manifestaient à nous et qu'ils nous apparaissaient comme justice, vérité et amour, de même est-ce à travers l'adoption que les personnes se révèlent à nous comme Père, Fils et Esprit. Ce sont ces propriétés des personnes dont nous devons maintenant parler. Nous le ferons ici en nous en tenant d'abord à ce dont l'Écriture témoigne, c'est-à-dire à ce qui nous est manifesté de chacune des personnes à travers le dessein du salut. C'est ensuite seulement que nous pourrons, en réfléchissant sur ces données de fait, comprendre quelque chose de leurs relations éternelles. J'insisterai surtout sur le Verbe et l'Esprit, dont la connaissance est l'essentiel du Nouveau Testament. La première révélation est la révélation du Père. Il est dans la Trinité le principe, l'origine, l'archet. Ainsi, dans la création, qui est l'œuvre commune des trois personnes, comme toutes les œuvres ad extra, le Père se manifeste-t-il par ce mode propre. C'est lui qui profère la parole créatrice, « Dieu dit que la lumière soit ». Et c'est lui qui se complaît dans la vue de l'œuvre accomplie, « Dieu vit que cela était bon ». C'est en quoi Grégoire de Nazianze a raison de dire que l'Ancien Testament est la révélation du Père, bien qu'à parler rigoureusement, elle soit la révélation du Dieu un et que tout y soit l'œuvre commune des trois personnes. Mais en tant qu'il s'agit de l'origine, origine de la création, origine de l'élection, origine de la mission, l'Ancien Testament se réfère particulièrement à lui. Il nous le révèle aussi comme Père, et cette paternité à l'égard de la création est comme un reflet dans l'ordre des missions de la paternité dans les relations éternelles. Ainsi, quand le Christ parle du Père qui est dans les cieux et qui fait luire son soleil sur les justes et sur les injustes, et tomber la pluie sur les méchants et sur les bons, il ne parle pas du Père dans la relation éternelle qu'il a avec le Fils unique, mais dans la providence paternelle qui est la continuation de la création. Et de même, quand Osée fait dire à Dieu « Quand Israël était enfant, je l'aimais, et comme un père, j'ai appris à marcher à mon fils », il exprime, comme nous l'avons vu, la relation créée par l'élection et l'alliance entre Yahvé et Israël et qui est une théophanie visible de sa paternité à l'égard du Fils unique. Ainsi, la personne du Père apparaît-elle dans l'Ancien Testament dans le reflet de son action créatrice et providentielle. Mais elle ne sera pleinement manifestée que dans le Nouveau, car elle ne pouvait apparaître en pleine lumière que dans sa relation au Fils unique que seul le Nouveau Testament manifeste dans sa réalité personnelle. Mais même alors, elle n'est pas d'abord révélée directement, mais en relation avec le Fils dans son incarnation. C'est donc encore à travers le dessein rédempteur que la paternité est manifestée. C'est à travers les œuvres qu'il accomplit que le Christ apparaît en relation avec son Père. Quand il est l'objet de ses complaisances au baptême, quand il lui demande de détourner le calice de sa passion, quand il remet son âme entre ses mains. La Trinité apparaît ici dans le miroir de l'économie. Ceci est plus clair encore de la seconde personne. L'Ancien Testament la révèle obscurément. Comme la parole du Père. Le mot ici encore a besoin d'être bien compris. L'hébreu « dabar », que le grec a traduit par « logos » et le latin par « verbum », a un contenu bien déterminé. Pour les Grecs, le « logos » est avant tout la parole en tant qu'énoncé intelligible, et c'est pourquoi le mot en vient à exprimer la loi intérieure des choses, leur raison. Mais le « dabar » hébreu a une toute autre orientation, comme l'a bien marqué Gérard Kittel. La parole y apparaît comme opérant ce qu'elle énonce, comme la parole de bénédiction ou de malédiction. Elle est un acte et non seulement une signification. Appliquée à la sphère divine, la parole de Dieu se manifeste avant tout comme une force. C'est d'abord une force créatrice. Par la parole de Dieu, les cieux ont été faits, dit Ben Sira. Et saint Jean, proclamant l'identité de la parole créatrice et du Verbe incarné, dira « Par lui, tout a été fait ». Cette efficacité de la parole de Dieu est admirablement exprimée par Isaïe. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, qu'elle n'ait abreuvé et fécondé la terre, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, mais elle exécute ce que j'ai voulu. Isaïe 55, 10, 11. C'est ce Verbe créateur par qui tout a été fait et par qui tout à chaque instant est proféré que saint Jean, par un raccourci vertigineux qui exprime tout le paradoxe chrétien, nous montre en Jésus de Nazareth. Et le Verbe s'est fait chair. Car c'est en effet le même Verbe par qui le Père a modelé l'homme aux origines qui, selon les vues de saint Irénée, vient ressaisir ce plasma qui est sien, quand il s'est éloigné de lui, et le restaurer en lui de façon définitive. Mais l'œuvre du Verbe n'est pas seulement de créer, il est aussi la parole qui juge, le glaive aigu qui discerne et qui sauve et condamne. Ainsi nous le montre la sagesse. Pendant qu'un paisible silence enveloppait toute chose et que la nuit était arrivée au milieu de sa course, votre parole toute puissante s'élança du haut du ciel, portant comme un glaive aigu votre irrévocable décret. Livre de la Sagesse, 18, 14. La liturgie romaine appliquera ce texte à l'incarnation du Verbe dans l'introïte de la messe du dimanche dans l'octave de Noël. Et Tauler le commentera de la perpétuelle génération du Verbe dans l'âme des saints. Saint Jean appliquera également ce thème au Verbe incarné. Je cite « Puis je vis le ciel ouvert et parut un cheval blanc, celui qui le monde s'appelle fidèle et véridique. Il juge et il combat avec justice, il est revêtu d'un manteau teint de sang, son nom est le Verbe de Dieu, de sa bouche sort un glaive aigu. » Fin de citation, Apocalypse 19, 11 à 14. Et l'Épître aux Hébreux, à son tour, écrira « Oui, il est vivant, le Verbe de Dieu, efficace, plus effilé qu'un glaive à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. » Hébreux 3, 12. La parole de Dieu, enfin, est une parole révélatrice. C'est elle dont le livre de Samuel nous dit que l'enfant Samuel ne l'a reconnue pas parce que la parole de Yahvé était rare en Israël. C'est elle qui est adressée au prophète, qui est le principe, comme nous l'avons dit, par lequel la révélation leur est adressée. Mais cette révélation faite aux hommes n'est qu'un reflet créé de cette éternelle manifestation par laquelle le Père profère le Verbe éternel, qui est sa parfaite image, dans laquelle il se reconnaît entièrement et dans laquelle il prend une complaisance infinie. À travers la mission du Verbe, c'est la génération éternelle qui est manifestée. Si saint Jean nous montre dans la seconde personne la parole créatrice et illuminatrice, saint Paul la désigne de préférence comme la sagesse subsistante. Ici encore, c'est par référence à l'Ancien Testament que la seconde personne est caractérisée. La sagesse, hokma, que les Grecs ont traduit par sophia, désignait chez les peuples de l'Ancien Orient la prudence dans la conduite de la vie, telle qu'elle s'exprimait dans les maximes des sages. Ainsi, les princes des monarchies orientales constituaient-ils des livres de sagesse pour la formation de leurs sujets. Quand Salomon fit d'Israël une grande monarchie à la manière orientale, il voulut doter aussi son peuple de livres sapientiaux. Il prononça 3000 maximes et ses cantiques furent au nombre de 1005. Nous dit le deuxième livre des rois. C'est pourquoi c'est à son nom que la Bible rattache les proverbes et la sagesse. Mais par sa transposition dans la religion yaviste, la sagesse prit un caractère nouveau. Elle n'était plus une prudence simplement humaine, mais la conduite de la vie selon les voies de Yahvé. Car pour Israël, la seule règle de l'existence humaine est la loi de Dieu qu'il a révélée à Moïse et aux prophètes. La sagesse s'identifiait ainsi avec la Torah, avec la loi. Et elle en vint à désigner non seulement cette loi de Dieu, telle qu'elle existe dans sa communication à l'homme, mais la pensée divine elle-même, qui est le principe de cette loi et son archétype. C'est cette sagesse qui préside à tout le dessein de Dieu, dans laquelle il a formé le plan de son œuvre admirable et qui veille à son accomplissement. Les livres sapientiaux consacrent des passages admirables à exalter cette sagesse divine. Les propos... Ah, punaise! Les livres sapientiaux consacrent des passages admirables à exalter cette sagesse divine. Les proverbes écrivent d'elle « Yahvé m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été fondé dès l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre, avant que les montagnes fussent affermies, avant les collines j'étais enfanté. J'étais à l'œuvre auprès de lui, me réjouissant sans cesse, et jouant chaque jour en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. » La sagesse préside à la création de Dieu, mais elle existait avant elle. Elle a été fondée dès l'éternité, et ce texte est un de ceux qui seront le plus souvent cités par les théologiens ultérieurs. Le livre de la sagesse, à son tour, nous décrit la sagesse non plus seulement comme présidente à la création, mais aux destinées du peuple de Dieu. Il nous la montre sauvant Noé lors du déluge et Lot dans la destruction de Sodome. C'est elle qui conduit Joseph dans les voies droites et qui délivre Israël de la captivité des Égyptiens. Nous trouvons ici les sources de la conception d'Irénée sur le rôle du Verbe dans l'histoire du salut. Or, à travers ces manifestations, la sagesse révèle son essence. Je cite « Elle est le souffle de la puissance de Dieu, une pure émanation de la gloire du Tout-Puissant. Aussi rien de souillé ne peut tomber sur elle. Elle est le resplendissement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu et l'image de sa bonté. Elle atteint avec force d'un bout du monde à l'autre et dispose tout avec douceur. » Sagesse 7, 25. Ainsi la sagesse apparaît-elle dans sa réalité éternelle comme parfaite image de Dieu, comme totale expression de sa perfection divine. Or, c'est avec ces expressions que saint Paul et toute la tradition après lui désigneront la seconde personne. En Jésus se manifeste la réalité subsistante et personnelle de cette sagesse que l'Ancien Testament nous décrivait dans ses manifestations, mais sans nous la montrer comme subsistante. Ainsi, au début de l'Épître aux Colossiens, Paul écrit « Il est l'image, eikone, du Dieu invisible, né avant toute créature, car c'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Colossiens 1, 15. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, inspiré de saint Paul, dans un texte qui est le leitmotiv de ce chapitre, applique à la seconde personne les expressions de la sagesse. Je cite « Après avoir, à plusieurs reprises et en diverses manières, parlé autrefois par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel aussi il a créé le monde. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa substance et qui soutient toutes choses par sa puissante parole, après nous avoir purifiés de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine. » Fin de citation. Hébreux 1, 1. Nous avons ici l'expression de la toute première théologie du Verbe, telle que l'inaugure le Nouveau Testament lui-même. Les apôtres se sont trouvés confrontés au fait du Christ, qui revendiquait une autorité et une puissance divine, et c'est là le donné premier, élémentaire, fondamental de la révélation. Quand ils ont voulu donner de ce fait une expression, les apôtres se sont tournés vers l'Ancien Testament, ils lui ont emprunté ses catégories. C'est pourquoi cette première théologie est une théologie toute biblique qui montre la présence dans la personne du Christ de cette sagesse que l'Ancien Testament nous laissait seulement entrevoir et qui se manifeste dans le nouveau, dans sa subsistance personnelle. Mais l'expression qui nous introduit le plus profondément dans la connaissance de la seconde personne est celle de « fils ». L'expression « fils de Dieu » est commune dans l'Ancien Testament et peut y avoir des sens divers. Mais son usage dans le Nouveau Testament, et en particulier par le Christ lui-même, atteste, selon le mot de Vincent Taylor, qu'il appartient à la conscience que Jésus avait de lui-même qu'il était le Fils de Dieu dans un sens prééminent. Cité dans The Names of Jesus, page 65. Le premier texte où le mot apparaît le montre bien, c'est celui de Matthieu. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le faire connaître. Matthieu 11, 27. Il est bien clair ici qu'il y a entre le Fils et le Père une relation unique, qu'ils appartiennent à la même sphère d'existence, qu'il y a entre eux une totale communication et réciprocité. C'est cette théologie du Fils qui remplit l'évangile de Jean, tandis que celle du Verbe n'apparaissait que dans le prologue. Le Fils vient du Père. Je suis parti du Père et je suis venu dans le monde. Jean 16. Il appartient au même ordre que le Père. Seul, il connaît le Père et c'est pourquoi seul, il peut le faire connaître. Il est l'objet de l'amour du Père et cet amour s'épuise en lui. Il est le Fils en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Il n'a qu'une pensée et qu'une volonté avec le Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne le voit faire au Père. Jean 5, 19. Sa ressemblance avec le Père est telle que celui qui l'a vu a vu le Père. Il y a entre le Père et lui une immanence réciproque. Vous, Père, vous êtes en moi et moi en vous. Jean 17, 21. Ainsi, à travers les relations du Père et du Fils, dans l'ordre de l'économie, transparaissent chez Jean à la fois la parfaite unité de leur nature divine et la parfaite distinction des personnes. Jamais regard ne pénétrera plus profondément dans cette intimité du Père et du Fils que celui de l'apôtre qui a reposé sur la poitrine de Jésus.